BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Alors au sommaire, ce week-end, eh bien une nouvelle licorne française. C'est Swile qui vient de lever 200 millions de dollars. Swile, depuis presque 4 ans, est en train de disrupter, comme l'on dit, le marché des titres restaurants, des chèques cadeaux et autres services aux salariés. On revient dans un instant sur la success story de cette jeune boîte basée à Montpellier. Nous reviendrons également sur France 2030, 30 milliards d'euros annoncés mardi dernier par Emmanuel Macron et qui doivent permettre de réindustrialiser le pays et d'investir dans les technologies d'avenir. Enfin, en studio, à mes côtés, deux jeunes patrons qui ont tout pour réussir. Tout d'abord, Nicolas Guinbretière, le cofondateur de Vestac, qui produit des bâtiments en matériaux biosourcés. Et puis, Maxime Loubard, c'est le cofondateur de Wise, des lunettes connectées qui permettent de redonner la parole à des personnes en situation de handicap. Tous les deux font partie des lauréats de la 4e édition de la cérémonie Made in Dauphine qui s'est tenue jeudi soir en partenariat avec BFM Business. Et tout d'abord donc, une des bonnes nouvelles de la semaine, c'est une nouvelle licorne française, c'est la 19e. Cette licorne, c'est Swile, qui vient de lever 200 millions de dollars, 175 millions d'euros. Alors c'est une jeune start-up montpelliéraine qui surfe sur un marché très juteux, celui des titres restaurants. La start-up propose non seulement des solutions dématérialisées, en carte ou en appli, mais elle a eu en plus la bonne idée d'y ajouter d'autres services aux salariés, comme les chèques cadeaux et bientôt les offres diverses de mobilité, les vélos, les bus, les trottinettes, etc. Dans un instant, on va écouter Loïc Soubéran, c'est le président de Swile. Il nous explique ses ambitions au Brésil après le marché français. Mais tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir sur Swile avec Thomas Schnell.
Une carte unique pour les frais professionnels, c'est ce que promet la Swile Card. Les salariés peuvent dépenser leurs titres restaurants, payer leurs déplacements et d'autres usages s'ajoutent à l'offre. Dans un marché réputé fermé, Swile parvient à tutoyer les géants bien installés comme Edenred. Avec 13% de part de marché aujourd'hui, la société espère arriver à 20% l'an prochain. Elle compte déjà 15 000 entreprises clientes dans le monde, mais se tourne désormais vers l'Amérique latine. Swile a racheté en début d'année l'un de ses concurrents au Brésil afin de poser un premier pied dans le pays. Avec cette nouvelle levée de fonds de 175 millions d'euros, chaperonnée par le géant japonais SoftBank, Swile compte doubler ses effectifs et développer ses services. Après Sorare, elle est la deuxième start-up à atteindre le milliard de valorisation en à peine 3 ans et demi d'existence.
Vous avez fait votre place en France et vous avez choisi le Brésil pour la suite. Pourquoi le Brésil ?
Oui, bah alors le Brésil, c'est le marché numéro 1 mondial. Ouais. C'est un marché qui est 4 fois plus gros que la France. Et d'ailleurs, on compte en faire notre marché numéro 1 d'ici 2024.
C'est un marché complètement dématérialisé. Hein. Le Brésil a 100%, je crois. Hein. Alors, j'ai une question, c'est un peu la poule et l'œuf. Est-ce que vous avez choisi le Brésil à cause de votre nouvel actionnaire qui rentre évidemment SoftBank avec, dans les associés, des gens qui connaissent très très bien l'Amérique latine et notamment le Brésil, ou est-ce que vous avez choisi votre nouvel actionnaire parce que vous voulez aller au Brésil ?
Bon, la réponse est plutôt facile. Effectivement, on a choisi le Brésil parce qu'on a pour vocation de devenir un leader mondial et on ne peut pas vouloir être un leader mondial et pas s'attaquer au marché numéro un mondial. En revanche, effectivement, pour atteindre cet objectif-là, il faut être hyper bien accompagné. Et effectivement, on a eu la chance de pouvoir rencontrer SoftBank qui a une expertise hyper bonne sur l'industrie.
C'est intéressant de voir comment SoftBank, notamment depuis cet été, a fait une radia sur les French Tech, qui est rentrée dans le capital de pas mal de belles pépites françaises. Il croit apparemment à la French Tech.
Hein. L'écosystème est fabuleux, hein. On le dit, il y a quand même un vivier de talents en France absolument incroyable. Ouais. Je crois aussi qu'il y a les mentalités qui changent, c'est-à-dire que les entrepreneurs ont de plus en plus vite des ambitions globales. Et c'est peut-être ce qui manquait, c'est qu'on savait faire des super start-up, mais peut-être pas des grandes scale-up. Et là, ça y est, on est en train d'être tout un groupe à vouloir vraiment créer des leaders mondiaux.
Et créer ou recréer des leaders mondiaux qui réussissent et qui se développent, c'est précisément l'un des objectifs du plan France 2030 révélé cette semaine par Emmanuel Macron. Vous avez pu le vivre en direct bien sûr sur BFM Business, événement qui avait dû être reporté de quelques semaines pour effectuer les tout derniers arbitrages. Au final donc, 30 milliards d'euros d'investissement pour développer à la fois nos industries et nos technologies d'avenir. Alors plusieurs secteurs ou filières vont bénéficier de cette manne, notamment l'électronique, les biotech, le recyclage, l'agriculture, et puis au premier plan, l'énergie. Alors, qui va gagner des milliards ? Eh bien, les réponses de Nathan Cocampo.
D'abord, 8 milliards d'euros vont dans le secteur de l'énergie pour accélérer la décarbonation. Pour cela, trois grands axes. D'abord, le nucléaire. 1 milliard d'euros sera investi dans les petits réacteurs type SMR. Ensuite, l'hydrogène. Pas de montant annoncé, mais la France veut devenir le leader. 2 gigafactories d'électrolyseurs seront mises en chantier. Enfin, les énergies renouvelables. 500 millions d'euros iront dans ce secteur. Toujours dans ces 8 milliards, la moitié sera consacrée au transport. Objectif, produire 2 millions de véhicules électriques et hybride d'ici à 2030, ainsi que le premier avion bas carbone. Dans le contexte de pénurie de semi-conducteurs, s'ajoutent 6 milliards d'euros pour développer une production nationale de composants, avec un but, doubler la production électronique de la France d'ici à 2030 et sécuriser l'approvisionnement en puces. Des transformations qui nécessitent de la main-d'œuvre qualifiée. Ainsi, 2,5 milliards d'euros s'ajoutent pour la formation. Tout le reste des financements n'est pas détaillé, mais le président a fixé le cap sur différentes industries, notamment dans la santé avec la production de 20 biomédicaments d'ici à 2030. Enfin, dernier investissement, l'exploration des fonds marins pour accéder aux richesses des sous-sols.
Alors Nathan le disait il y a quelques instants, 1 milliard d'euros pour le nucléaire, notamment pour développer les SMR, ces réacteurs de petite taille dont on parlait d'ailleurs la semaine dernière dans cette émission. Alors c'est bien, mais ce ne sera pas du tout suffisant pour satisfaire les besoins d'un grand pays comme la France. Le gouvernement pourrait, il l'a dit, accéder à la proposition d'EDF de construire 6 EPR, les grandes centrales. L'association PNC, Patrimoine Nucléaire et Climat, milite même pour la construction d'une quinzaine d'EPR. Louis Gallois, l'ex-patron de PSA et d'Airbus, mais aussi actuellement président de ce conseil d'administration de PNC, a rappelé à Edwige Chevrillon les énormes besoins électriques de la France.
Tout ce qu'on veut faire pour avoir une France éco-responsable nécessite énormément d'électricité. Oui. Et donc nous avons la réponse, ça s'appelle le nucléaire. Oui. Ça fait longtemps qu'il n'y a, pas un président français qui a affirmé ça aussi fort, non ?
Je vois, d'abord je m'en réjouis. Ouais. Je pense que ce qu'il dit est marqué au coin du bon sens. Nous, actuellement, nous produisons 480 TWh chaque année. Jean-Bernard Lévy dit, en 2050, c'est le double. On va être à 900 TWh avec la multiplication des usages de l'électrique. Si vous... actuellement, 70% de l'énergie de l'électricité est produite par le nucléaire. Ça fait 350 TWh. Si on est à 900 et qu'on réduit cette part à 50, qui est l'objectif qui avait été annoncé, moi je ne suis pas d'accord avec cet objectif, mais il a été annoncé, 50% de 900, ça fait 450 TWh. Donc il faut accroître la capacité de production du nucléaire en France d'au moins 100 TWh, c'est-à-dire une quinzaine de réacteurs.
Oui, c'est là où c'est... J'ai reçu le président de RTE, c'est compliqué quand même.
C'est compliqué.
D'en construire 15 d'ici 2050, c'est impossible.
Je pense que c'est une
même.
Chance extraordinaire pour la France. Nous maîtrisons la filière, nous avons les compétences.
Non, il n'y a plus les compétences, Louis Gallois.
Si, il a fallu...
Non, on peut les retrouver, mais elles ont disparu, longtemps. Je vais expliquer qu'il y a un tout petit problème de compétences.
Il y a un gros problème de compétences sur la métallurgie, sur le contrôle qualité. On est en train de la récupérer grâce à Flamanville. Je dirais Flamanville coûte très cher, mais au moins on récupère cette compétence. Parce que la base est là, la base technologique, on l'a en France. C'est une filière qu'on maîtrise de A à Z, depuis la création du combustible jusqu'au retraitement de ce combustible. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup de filières comme celle-là, 200 000 emplois. Le grand carénage dont on parle, c'est-à-dire l'amélioration et la prolongation des centrales actuelles, c'est 100 000 emplois, 100 métiers différents.
Voilà donc pour les enjeux et pour le besoin de rebâtir une filière nucléaire en France, selon Louis Gallois. Et puis dans son discours, son show de mardi matin, Emmanuel Macron a pris soin d'inclure toutes les tailles d'entreprises, des start-up jusqu'aux grands groupes. Et l'industrie, notamment, a été mise à l'honneur. On va écouter Frédéric Sanchez, qui préside l'Alliance Industrie du Futur et qui est aussi président du groupe lillois FIV. FIV, c'est un groupe de 8000 salariés dans le monde qui conçoit des lignes de production pour permettre à ses clients, justement, de produire. Et juste après, eh bien, on écoutera une autre réaction, celle de Benoît Grossman, le coprésident de France Digital. Il va réagir, lui, aux annonces d'Emmanuel Macron sur la French Tech. Mais tout d'abord, donc, l'industrie, avec Frédéric Sanchez.
Deux remarques. D'abord, depuis 2017, notre industrie ne décline plus dans notre pays. Et on pourrait en débattre à l'infini, mais la politique d'offre qui a été mise en place à la fin, d'ailleurs, du quinquennat Hollande, hein, ouais. et dont Emmanuel Macron a bénéficié dans un premier temps, et puis lui-même l'a intensifié, a eu un impact, puisqu'on a créé des emplois pour la première fois depuis 2008 dans l'industrie. Ensuite, bon, la crise est arrivée, mais moi j'y crois, pourquoi ? Parce qu'on a une opportunité inouïe. Aujourd'hui, vont apparaître des industries qui n'existaient pas. Produire de l'hydrogène en quantité massive, ça ne se fait nulle part dans le monde. Ouais. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, pour peu qu'on soit innovant, et il se trouve que FIF, par exemple, est un des deux grands fournisseurs mondiaux d'échangeurs cryogéniques. Ouais. L'échangeur cryogénique, c'est ce qui permettra de liquéfier l'hydrogène et de la transporter. Eh bien, on a là une opportunité de se réindustrialiser à condition d'innover, hein, à condition d'innover massivement et donc de prendre des risques.
Je crois qu'il faut quand même se féliciter de ce qui a été annoncé ce matin. Et j'ai toujours tendance à dire qu'on a de la chance. Je crois qu'on est une association professionnelle où on a beaucoup de vent dans les voiles. Donc on est très reconnaissant envers nos mandants qui nous aident beaucoup et qui soutiennent cette industrie qui est créatrice d'emplois. Aujourd'hui, les startups emploient à peu près 1 million de personnes. Il ne faut pas l'oublier, c'est 90% des salariés de start-up sont en CDI, là où dans le reste de l'industrie, c'est nettement moindre.
Ce sont des emplois la plupart du temps qualifiés, en plus.
Tout ultra qualifiés, mais pas que. C'est pas que parisien également, c'est la partie partout. Oui. Ensuite, c'est les sociétés qui sont plutôt en forte croissance et qui ont des chiffres d'affaires qui est très important. Voilà. Alors, le plan de 2030, ça va dans plein de domaines. Alors, dans la deep tech, ça va dans le nucléaire, dans le quantique, il y a plein de choses à faire. Et c'est plutôt une très bonne chose. Ravi des annonces du président Macron de ce matin, qui nous a fait un show de 2 heures absolument impressionnant. Voilà.
Et à présent, je vous lisais en titre, eh bien, on va parler de la soirée Made in Dauphine. C'est désormais à chaque année une cérémonie qui met à l'honneur celles et ceux que l'on appelle les Dauphinoises et les Dauphinois, les diplômés de l'Université Paris-Dauphine. Une soirée en partenariat avec BFM Business. On en voit quelques images si vous nous suivez en télévision. Alors, ont par exemple été récompensés Antoine Joutot, le patron du Bon Coin, Clarisse Kopf, la présidente du directoire de l'air Hermès, ou encore Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole, mais aussi Antoine Lecomte, c'est lui qui a créé Cheers pour imprimer ses photos, sans oublier l'écrivain Marc Lévy, lui aussi diplômé de Dauphine au tout début des années 80. Alors bref, c'est du beau monde, entre guillemets, du beau monde bien installé, mais Made in Dauphine, c'est aussi la mise en avant, et c'est très bien, de jeunes Dauphinois qui lancent leur entreprise, et deux d'entre eux sont en plateau avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas Guine-Bretière, vous êtes le cofondateur de Vestac.
Bonjour, tout à fait.
Et bonjour Maxime Loubard, vous êtes vous le cofondateur de Wise. Alors avant de parler plus en détail chacun de vous de votre activité. Un mot sur cette cérémonie qui a eu lieu jeudi soir. Ça fait quoi de recevoir son trophée de la part de Yannick Bolloré, pour vous Maxime, et de Bertrand Cizeau, qui est le DIRCOM de BNP Paribas, pour vous Nicolas? Comment est-ce qu'on vit ce moment-là? Je commence avec vous Maxime.
On profite d'abord parce que c'est quand même une chance. On vient de sortir de nos études, enfin pour ma part, et c'est des personnes qui sont bien implantées dans leur milieu, dans le business, et qui ont des mots très attentionnés, très considérants à notre égard, donc ça honore, mais je pense qu'il faut le prendre avec une certaine modestie et plutôt les accueillir comme un encouragement pour la suite.
Des encouragements, ils vous ont donné des conseils, soit sur la scène, soit lors du cocktail.
Oui, alors sur la scène, juste après, avant aussi, et puis je pense qu'on va se revoir prochainement pour discuter.
Et quel type de conseils vous a donné Yannick Bolloré ?
Il y en a certains qui sont secrets, mais le plus important, je crois, c'est vraiment de croire en son projet et surtout d'avoir l'ambition de voir encore plus loin et de faire de nos startups à Dauphine des choses, des projets qui peuvent vraiment avoir un impact positif sur la société et un impact durable.
Même question de votre côté. Vous avez, Nicolas, reçu le prix du directeur de la communication de BNP Paribas. Pareil, c'est un moment important quand on est un start-upper. Et est-ce qu'il vous a donné quelques conseils?
Oui, tout à fait. Donc, je rejoins beaucoup ce que disait Maxime. C'est un moment qui est assez émouvant de revenir dans cet amphithéâtre où finalement tout avait commencé pour les études supérieures, avec énormément de monde, avec des personnes qui ont des postes à très grande responsabilité, des capitaines d'industrie, et puis aussi de pouvoir recevoir des conseils, dans mon cas de Bertrand Cizeau notamment, et puis d'autres chefs d'entreprise qui étaient présents. Donc, c'est très émouvant et effectivement, je le prends aussi plus comme un encouragement pour d'éventuels accomplissements à venir.
Et quand on est comme vous deux, des start-upers, en permanence on doit se vendre, entre guillemets, on doit pitcher auprès des investisseurs, auprès de sa banque, parfois auprès aussi de ce type de cérémonie. C'est comment ce moment où on le vit bien, de toujours devoir se vendre, en fait? Je ne sais pas qui veut prendre la parole, Maxime.
On le vit forcément bien parce qu'on parle de notre projet et je pense que les projets que l'on fait, des projets qui marchent, c'est souvent des projets qui sont menés avec passion. Et quand on parle de quelque chose avec passion, c'est très facile. J'ai pas l'impression de vendre mon projet quand j'en parle, j'ai juste l'impression de le partager et de permettre un engouement autour de celui-ci.
Alors là, donc, on parle d'une labellisation Dauphine. Nicolas, c'est quoi l'esprit Dauphine ? Pour vous, c'est plus une université ou une grande école ? On sait qu'elle a les deux statuts. C'est quoi Dauphine ?
Mais il y a vraiment un mix entre la partie universitaire, la partie grande école. Donc il y a beaucoup d'excellence académique, professorale, qui est reconnue mondialement, qui à titre personnel m'a ouvert des portes de prestigieuses organisations. Il y a évidemment tout l'aspect cursus académique qui est très enrichissant. Et puis il y a aussi toute la vie sociale qui est extrêmement riche et qui m'a permis moi de tisser des amitiés fortes et durables. Donc c'est ce mélange d'exigences académiques, de vie en société, de découverte de la vie en société qui sont absolument passionnants.
Et puis une particularité, il n'y a pas beaucoup je pense dans d'autres universités, il y a un incubateur dont vous faites partie. C'est quoi la philosophie de cet incubateur ? Il vous accompagne vraiment comme n'importe quel autre incubateur de start-up ?
Alors j'ai envie de dire, ils accompagnent oui, dans un sens, ils nous accompagnent comme n'importe quel autre, mais en même temps il y a une sorte de personnalisation de l'accompagnement, c'est-à-dire que l'accompagnement de l'incubateur Dauphine, c'est vraiment un accompagnement de projets qui sortent d'étudiants, d'études, donc c'est vraiment des projets assez récents, et on va chercher pour chaque projet les besoins précis, et on va les accompagner, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu.
Alors justement, parlons de votre projet, votre entreprise s'appelle Wise, alors Wise en quelques mots simples, je vais vous demander de pitcher une nouvelle fois. Wise, c'est quoi
Maxime ? Bien sûr, Wise c'est tout simplement un moyen de communication pour les personnes qui sont totalement paralysées, qui ne peuvent plus du tout communiquer. Je vais prendre l'exemple de la maladie de Charcot. Ce sont des personnes dont l'esprit est enfermé dans le corps. Je parle de la maladie de Charcot, mais il y a plein d'autres pathologies qui touchent aussi des enfants, de peu importe les âges. Et on a développé cette paire de lunettes-là
qui va être
capable de détecter tous les mouvements volontaires des yeux et autour des yeux, les muscles autour des yeux. Et ceux-là vont agir comme des commandes sur toutes les interfaces de communication, donc les ordinateurs, les portables, etc., mais aussi la domotique ou les fauteuils roulants. C'est-à-dire qu'avec les yeux, on va pouvoir piloter son fauteuil, on va pouvoir écrire un mail sur son ordinateur. En fait, on reprend part à la société grâce à la communication.
Alors, on en est où ? Est-ce que des essais cliniques ont eu lieu ou est-ce qu'on est encore à la phase d'avant ?
Alors, on est dans une phase, je pense, de pré-industrialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment un dispositif qui fonctionne parfaitement. On l'a co-conçu tout au long de notre aventure avec les patients, avec les ergothérapeutes, les familles, avec les principaux concernés, ce qui fait qu'on a un produit qui répond vraiment aux besoins. Et cet été, on a eu la chance de le faire essayer dans toute la France. On s'est déplacé dans toute la France en camping-car, on l'a fait essayer. Et je crois qu'il y a eu une validation de la part de toutes les personnes qui l'ont essayé. Et donc on est dans cette phase de pré-industrialisation, on y tend là.
Et la phase d'après, du coup, maintenant que la co-conception, le co-développement a bien fonctionné, c'est quoi la phase d'après ?
Alors la phase d'après, je pense que ça va être une levée de fonds qui va nous permettre justement cette industrialisation et cette internationalisation et surtout une recherche, une R&D encore plus profonde, encore plus approfondie, parce qu'on a plein d'autres idées. Là, on développe un premier dispositif, mais notre but, c'est vraiment de développer tout un tas de technologies dans le monde du handicap pour permettre l'inclusion d'un maximum de personnes dans la société.
La R&D, ça coûte de l'argent. Quels sont vos modes de financement avant cette éventuelle levée de fonds ?
Alors, avant cette levée de fonds, on finance nous-mêmes. On a aussi fait des choix technologiques qui nous ont permis de rationaliser énormément la R&D, de nous concentrer vraiment sur ce dispositif-là. Donc, on a pu gagner quelques tickets via des concours. C'est ce qui nous a permis de financer. On a aussi la bourse French Tech, qui nous a été French Tech Tremplin, de 30 000 euros. Donc, ça nous a permis d'avancer comme ça. En tout cas, là, on arrive un peu au bout de nos financements qui sont légers, mais qui sont, légers pour une R&D, mais qui nous ont été suffisants. Donc là, voilà, on voudrait passer une étape supérieure. C'est pour ça qu'on tend vers cette levée de fonds.
Vous visez quel marché ? Les particuliers ou les établissements qui accueillent les patients qui bénéficieront de ces lunettes ?
Alors, les deux. Les deux, parce que les particuliers, il y en a beaucoup chez eux, qui sont du coup avec les aidants familiaux et qui ont besoin de ce dispositif. Et évidemment, les cliniques, les maisons d'accueil spécialisées, les hôpitaux, les centres SLA, il y a énormément de structures qui accueillent des patients qui en ont besoin aussi. Et donc, ça va être les deux. Et depuis le début, on travaille avec les deux d'ailleurs, autant avec des particuliers, des associations, mais aussi des structures médicales.
Ça coûtera combien, la paire de lunettes ? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que ça coûtera ? Et est-ce que ce sera pris en charge par l'assurance maladie ?
Alors, Le prix, c'est un peu au doigt mouillé, mais c'est un ordre de grandeur. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent et qui fonctionnent très bien, mais sur d'autres technologies avec d'autres spécificités, mais qui sont de l'ordre de 15 000 euros. Nous, notre but, c'est vraiment de le démocratiser, ce genre de technologie, ces moyens de communication alternatifs augmentés, et ça va être autour de 1 000, 2 000 euros. C'est vraiment ce qu'on vise, 1 000, 2 000.
Et la prise en charge par l'assurance maladie?
Alors, c'est pas pris en charge actuellement parce que la liste date il y a bon nombre d'années, c'est pas compris dedans. À l'époque, je pense tout simplement qu'il n'y avait pas de technologie comme ça qui existait, donc c'était pas mis.
Elle sera mise à jour et vous espérez une prise en charge.
C'est ça. Et on espère bien sûr une prise en charge, et surtout, en attendant, puisqu'on veut être aussi acteur de ça, on commence à travailler avec des mutuelles de manière à ce que pour les patients qui subissent déjà l'injustice de la maladie, il n'y ait pas une deuxième injustice du coût, parce que souvent dans le domaine du handicap, les dispositifs sont chers et notre but, c'est vraiment de le rendre accessible.
Donc Maxime, on l'a bien compris, vous espérez une levée de fonds. Nicolas, vous, elle est déjà faite, c'était en février 2021, si je ne me trompe pas, 2,6 millions d'euros. Rappelez-nous d'abord ce qu'est le concept de Vestac.
Oui, c'est tout à fait ça. Donc on a levé près de 3 millions d'euros, effectivement, fin 2020, et on l'a annoncé un peu après. Donc Vestac, on s'attaque à une belle industrie, qui est l'industrie de la construction, qui fait face à des défis qui sont économiques, sociaux, environnementaux assez majeurs. Le BTP, c'est aujourd'hui 75% des déchets produits sur le territoire, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre, c'est seulement 1% de gain de productivité par an. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est arriver à construire des logements qui réduisent drastiquement l'empreinte carbone et qui arrivent à améliorer les conditions de vie de millions de personnes. Et pour ça, on a développé un processus de conception et de construction de bâtiments qui nous permet de concevoir des logements, des bâtiments jusqu'à 5 étages, qu'on va concevoir avec un jumeau numérique, un modèle digital, et qui va nous permettre ensuite d'envoyer des instructions de production vers notre ligne de production, puisqu'on va construire ces bâtiments sous forme de modules 3D en structure bois dans nos propres usines, et arriver ensuite à transporter ces grosses boîtes, ces grosses briques par camion et les empiler comme un jeu de Lego sur les chantiers.
Alors plusieurs choses dans ce que vous avez dit, donc j'ai bien compris, vous concevez, vous fabriquez et vous assemblez donc ces différents modules. Pour quel type de bâtiment, qui sont vos premiers clients si vous avez signé les premières commandes?
Ouais, on travaille en phase de conception aux côtés d'architectes, aux côtés d'autres bureaux d'études pour le compte de promoteurs immobiliers. Donc on commence à travailler et on a signé des contrats avec des acteurs comme la Sogeprom, comme Bouygues Immobilier, aussi des plus petits maîtres d'ouvrage. Et ensuite, on fait la réalisation du bâtiment. Et nous, ce qu'on fait principalement, c'est du logement jusqu'à 5 étages, parce qu'il y a un enjeu économique, social et environnemental qui est majeur spécifiquement sur le logement.
Les premières livraisons, c'est pour quand?
Alors, on a attaqué la production des premiers modules il y a un petit mois à peine sur notre site de production près de Meaux, sur la commune de Poincy, dans le 77. Et le premier bâtiment sera livré là en fin d'année. On est en train de finaliser le calendrier avec le maître d'ouvrage.
Pour celui qui achète, c'est un coût similaire à une autre construction à l'ancienne, ou est-ce que ça coûte forcément un petit peu plus cher? On dit souvent que ce qui est écologique est un peu plus cher. Est-ce que c'est le cas?
Alors, ça coûte légèrement plus cher. La différence est quasi marginale. Il y a une nouvelle réglementation dans le bâtiment qui va être en vigueur au 1er janvier 2022, qui va renchérir assez considérablement les coûts de construction en général.
Et quasi marginal, ça fait.
Et nous, ça ne coûtera pas plus cher à ce moment-là. Le marginal va être entre 2 et 5% plus cher par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. En revanche, avec des bénéfices associés qui sont assez majeurs, on divise par 3 l'empreinte carbone du bâtiment, on divise par 2 les délais de livraison. Ce qui fait que si vous achetez un programme neuf avec un promoteur qui fait appel à nous, vous n'avez plus besoin d'attendre 4 ans, comme c'est parfois le cas, pour avoir votre logement. Vous pouvez l'avoir quasiment dans l'année.
Vous me parliez d'une usine qui vient d'ouvrir ses portes donc à Poincy, en Seine-et-Marne. Combien de salariés à l'heure actuelle et quels sont les objectifs pour les prochains mois?
Notre idée, en fait, il y a un sujet d'actualité sur la réindustrialisation. Absolument. De la France qui nous intéresse énormément, parce que notre logique est vraiment d'arriver à se développer sur différents sites, sur tout le territoire français et peut-être par la suite ailleurs. Un site de production, ça va être de l'ordre d'une quarantaine d'ouvriers. Et ce qui est intéressant et quelque chose qui me plaît énormément dans ce que je fais, et je m'en auto-félicite, c'est qu'on a un mix de compétences, aussi bien des personnes, des emplois extrêmement qualifiés en bureau d'études, avec des ingénieurs bâtiments, et puis aussi de l'emploi ouvrier, de l'insertion sociale, et c'est un mix qui est assez chouette et assez gratifiant.
Une dernière question, tous les deux, vous allez faire clairement et pleinement partie de cette France 2030, dont a beaucoup parlé Emmanuel Macron mardi dernier. Vous la sentez comment, cette France de 2030? Je commence avec vous, Maxime, vous voulez y être à plein, et ces annonces, elles vous satisfont?
Elles sont satisfaisantes dans le sens où on sent que d'un point de vue aussi politique, il y a une volonté de soutenir les start-up dans des technologies innovantes et qui feront la France de demain, mais aussi le monde de demain. Parce que ces start-up sont sans doute vouées aussi à aller ensuite dispenser leurs compétences et leurs produits à l'international. Donc oui, évidemment, on y sera, j'espère, tous. Et ce n'est pas que nous, start-upers, c'est finalement toutes les personnes qui vont bénéficier aussi de ces technologies-là. C'est toute la France entière qui va vers 2030. Et donc, il faut oublier personne dans cela. Et donc, je crois que cet engouement-là, on est peut-être sur la pointe de la flèche, mais la flèche est entière. Il ne faut pas oublier les plumes derrière. Et c'est tous ensemble qu'on ira vers cet horizon-là.
En quelques secondes, la même question, Nicolas. Cette France de 2030, vous la vivrez pleinement, vous et vos associés d'ailleurs?
Tout à fait, avec mes deux associés, Sylvain Beaujage et Jean-Christophe Piron, qui sont devenus au fil du temps des amis. Et on est tous les trois complètement dans cette logique, arriver à travailler, créer de la croissance, arriver à transformer une industrie qui est une belle industrie, qui demande qu'à changer, mais qui a des défis assez importants devant elle.
Eh bien, merci à tous les deux. Donc, félicitations pour ce prix Made in Dauphine que vous avez reçu cette semaine. Et la semaine prochaine, eh bien, c'est Audrey Maubert qui sera à la tête de la France à tout pour réussir. Audrey qui recevra notamment Timothée Deroux pour parler d'Alentour. Alentour, c'est la nouvelle plateforme pour mettre en avant le tourisme en France. Audrey qui reviendra également sur quelques temps forts de la première étape du Tour de France de la reprise. Ce sera un événement à suivre en direct toute la journée sur l'antenne de BFM et ce sera dans la ville de Lille. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.